Évidemment, Maxime Doré, on est le 30 janvier 2019. Ça finira plus janvier. Je pense que janvier est éternel cette année. Ça va être un mois éternel. Donc, on va être en janvier jusqu'en janvier l'année prochaine. Donc, bon mois de janvier, tout le monde éternel. On est le 30. Météo, il coûte ici à Québec des tempêtes de neige. Il y en a à toutes les 27 secondes. C'est impressionnant. Il y a vraiment des tempêtes de neige tout le temps. Je ne sais pas si c'est un... peut-être pas un record de neige, mais moi, en tout cas, si j'étais dans l'industrie du déneigement, je serais choqué. Je serais triste parce que ces gens-là, c'est certain que c'est tout le temps un guess. Hein. Ils chargent un montant X. C'est pas vraiment adapté à la quantité de neige. Quand il y a une neige pas beaucoup d'une année, ben, ils sont morts de rire et ils font du cash. Mais les années où les années où ça va pas, comme cette année, ou du moins à date, c'est parti pour ça. Je sais qu'il y a des années, des fois même, il y avait des déneigeurs qui donnaient une enveloppe, qui disaient aidez-moi, ou tu sais, volontairement, là, en disant faites quelque chose. Puis j'ai déjà vu ça. Là. J'ai déjà vu ça arriver. Puis. Bon, fait que, on va arrêter de se plaindre, on va arrêter d'être triste pour les déneigeurs qui ont quand même une vie intéressante. Je veux dire, ils sont là, puis ils prennent du café, puis ils attendent. Je sais pas, j'ai aucune idée c'est quoi la vie d'un déneigeur. Je sais pas. Fait qu'aujourd'hui, écoute, on a les nouvelles, il y en a des tonnes. Là, il y en a des tonnes. Hier, il n'y a pas eu de show. Je n'ai pas fait de La Terre est plate hier parce que j'ai sorti un épisode de te rappelles-tu de Dirty Dancing? C'est pour les filles, Là. Si c'était une fille qui écoute ça, puis tu te rappelles de Dirty Dancing, j'énumère, je me rappelle de Dirty Dancing, puis de l'année 87. Fait que c'est pour ça que j'ai pas fait de La Terre est plate hier. Fait qu'il y a plus de nouvelles, donc ça se pile dans ce temps-là. Écoute, il y avait des belles nouvelles à choisir. Aujourd'hui, j'ai un line-up assez intéressant. Là. Assez impressionnant, le line-up que j'ai sur des nouvelles qui se passent à la planète Terre, on the planet Earth. Earth. Il se passe bien des affaires louches, des suggestions patentes à faire, absolument pas ça. Vous allez voir, la suggestion du jour, là, c'est si tu fais pas ça, t'es un problème, t'as un problème. Fait qu'on start, on start la patente, on start tout ça parce qu'il y a du stock, sincèrement. Là. Il y a du stock intéressant, on commence tout de suite, tout le monde.
Mr. Birchhold had such an effervescent, wonderful personality. We became very good friends.
He was so engaged with the kids, too. I mean, he really was fun. And
he could give me a great feeling about myself. I was attracted to him.
Jan Broberg and Robert Birchhold had an unnatural relationship.
I loved him as deeply as I've ever loved
Je pense qu'on a tout un compte Netflix, là. Si vous n'avez pas un compte Netflix, je ne vous oblige pas à le faire, mais vous devriez. Il y a des bonnes choses sur Netflix. Là. Arrêtez de vous casser la tête, il y a des bonnes choses sur Netflix. Pour ceux qui ont un compte Netflix, il y a des suggestions que je vous fais de temps en temps de dire, écoute, vous devriez écouter ça, c'est intéressant, je suis tombé là-dessus, c'est intéressant. Là, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. C'est un ordre. Il y a un buzz mondial par rapport au nouveau documentaire qui est sorti. Et en passant, moi, j'ai de la difficulté maintenant à écouter des films. J'aime trop les documentaires, j'aime trop ce qui est vrai. Quand un film n'est pas basé, du moins au pire, là, sur une histoire vraie, j'ai de la misère à l'écouter, ça me tape ses nerfs un peu, parce que c'est comme faux. On dirait que j'ai l'impression que je perds du temps. Il y a tellement de bons documentaires, tellement de choses vraies qui se passent sur la Terre. Et la suggestion que j'ai aujourd'hui à vous donner, puis encore une fois, je le répète, c'est un ordre. Faut écouter ça. J'ai jamais vu une histoire comme ça. Puis je parlais à Pauline la Boomer, puis je lui disais avec raison, tu sais, des fois, tu dis si c'était un roman, si c'était une histoire que quelqu'un avait écrite, on dirait de cette personne-là que c'est un fou, tu sais, que l'histoire est tirée par les cheveux. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est l'histoire. Donc, le titre, je vais le dire, c'est « Abducted in Plain Sight ». C'est la vie... il l'a pas en français. Il l'a en sous-titré français, puis ça vaut la peine. Même si vous parlez pas anglais, écoutez-le en sous-titré français. C'est la vie évolée de Jane Broderick, je pense que c'est comme ça. en français, mais le titre en anglais, Abducted in Plain Sight. Donc, c'est l'histoire. Ben, je vais pas la raconter en passant. C'est incroyable. Tout le monde qui regarde ça, j'ai jamais vu une histoire comme ça. J'ai jamais, jamais vu une histoire comme ça, sachant en plus que c'est vrai. Donc, c'est une histoire vraie. Les gens ont été accusés, sont accusés. Mais écoute, les twists là-dedans, les revirements, on parle d'un truc, juste le plot général, là, toute l'histoire de base, c'est un homme manipulateur, pédophile, qui a fait des choses, mais absolument incroyables pour arriver à ses fins. Et c'est une histoire, tu dis, bah, écoute, j'ai déjà vu ça, là, c'est du monde qui... Non, vous n'avez pas vu le point où cet homme-là... qu'est-ce que cet homme-là a utilisé? Le nom de l'homme, c'était parce qu'il est décédé, Robert B. Burchtold. Burchtold, tout dépendant si le CH vous le dites ou pas. Robert B. Burchtold. Cet homme-là a fait des manipulations, des techniques, pour arriver à ses fins. C'est impensable ce qu'il a fait. Et surtout que ça a fonctionné. C'est ce qui est absolument débile. Donc, je vous le suggère, mais fortement, d'aller écouter Abducted in Plain Sight. Si vous en revenez, si vous dites, sérieusement, c'est parce que vous avez tout vu dans l'histoire de la société. Là. Si c'est pas quelque chose qui vous fesse dans le dash, si c'est pas quelque chose qui vous surprend, il y a un problème avec vous. Là. Donc, c'est sur Netflix. C'est pas en français. Il l'a simplement avec des sous-titres français, mais ça vaut la peine parce que c'est pas un film d'action. Donc, même s'il y a des sous-titres, vous avez le temps en masse de lire. C'est un documentaire. Ça passe rapidement. C'est 1h30, mais ça passe vite. Tu l'écoutes, puis ça passe vite, puis t'es shaké. Si t'es pas shaké, t'es louche. Moi, j'en suis depuis. J'ai essayé de j'ai demandé à Pauline la Boomer, j'ai parlé à Geneviève, ma soeur. J'ai dit à tout le monde, let's go, on écoute ça. Tu sais, c'est comme du bouche à oreille. Hein. C'est le même aujourd'hui que les choses éclatent, ce qu'on appelle viral. Puis je suis allé voir sur Internet après. Écoute, il y a des gens du Cosmopolitan, il y a des gens de tous les journalistes, le moindrement, qui en parlent, qui ont rapport avec le. Tu sais, ils disent, écoutez, c'est le plus frappant qu'on a eu. L'histoire est exceptionnelle. La famille, c'est triste. Et le simple fait, pour finir avec ça, le simple fait que la famille accepte de raconter cette histoire-là, vous allez voir avec ce que ça leur coûte, avec la... Ils ont l'air malheureusement fous, les parents. Très, très fous. Et qu'ils acceptent de jouer, pas de jouer le jeu, parce que ce n'est pas un jeu, mais qu'ils acceptent de raconter ça, c'est tout en leur honneur. Parce que bien du monde se serait campé en disant « Je veux rien savoir, je ne veux plus jamais penser à ça. » Ils ont fait face à cette histoire-là en faisant le livre. Premièrement, c'est un roman. Là, qui, ben, pas un roman, mais c'est un livre, une biographie qui a été écrite. Et il a été adapté dans ce documentaire-là. Donc, Abducted, volé en plein jour, dans le fond. L'enfance volée de Jane, de Jan, parce que c'est son nom à elle. C'est l'enfance volée de Jan. Je vous le conseille right now. Puis c'est un, genre, je ne conseille pas, c'est un ordre. Je le répète. It's an order. Раз-раз-раз, это Харбас. Все спортивка Хадидас. И на Найке пацаны. Слушаем Харбас басы. Это стайл любимый. Ждем все в ритме колбасы. 150 ударов тут. Пацаны, спортивка ждут. Это школа колбасы. Веселее, пацаны. Раз-раз-раз, это Харбас. Все спортивка Хадидас. И на Найке пацаны. Слушаем Харбас басы. Это стайл любимый. Ждем все в ритме. Le fameux hard bass russe, slave. Toute une culture de fucked up. Juste voir les vidéos, c'est une des vidéos de danse le plus drôle que j'ai vu de ma vie. C'est vraiment des jeunes slaves, des jeunes russes qui dansent sur ça. Comme une espèce de style de vie qu'ils ont, eux autres. Okay? Ils ont vraiment leur style de vie. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas de job, ils ne travaillent pas beaucoup là-bas. Donc, c'est des gens qui sont en arrêt de travail en majorité, des jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Puis, ce vidéo, écrivez Russian Hard Bass. C'est un jeune qui danse au début, puis leur façon de danser est tellement ridicule, comme un gobelin danse. On danse du cul, mais eux, ils l'assument. C'est vraiment dégueulasse. Pourquoi j'ai mis ça? Il y a toute une histoire depuis une couple de... Ça a commencé cet été, puis ça continue de nouveau. Puis écoutez, il y a plusieurs possibilités là-dedans. Okay? Il peut y avoir une recherche d'attention, il peut y avoir... Mais si ça, c'est vrai... C'est vraiment, comme encore une fois, c'est comme des films. Écoute, la nouvelle est la suivante. Il y a une modèle, une mannequin. Une mannequin. Plus une... Ouais, okay, oui, c'est une mannequin. C'est une mannequin russe. Bélarusse, dans le fond. Elle est russe ou bélarusse, mais elle vient de la Bélorussie, donc les pays autour de la Russie. Elle est bélarusse. Et elle a été emprisonnée. Donc, elle a été emprisonnée en février. 2018, donc l'année passée, elle a été emprisonnée parce qu'elle a dit qu'elle avait des preuves que les Russes avaient effectivement cogité, avaient vraiment dealé avec Donald Trump. Ça part comme ça. La jeune fille, très jeune, très mince, une jeune Russe, comme ont l'air la plupart des Russes jeunes filles, jolie. Aujourd'hui, là, récemment, dans l'entrevue, on dirait qu'elle s'est mis du collagène dans les lèvres, là, elle n'aurait pas dû faire ça, mais je veux dire, elle est jolie, une jeune fille. Et elle parle, donc, elle dit ça de façon... Encore là, il y a deux possibilités. On va prendre la première, on va la croire de façon naïve. Elle dit simplement qu'elle a des preuves, qu'elle a vu certaines choses. Imaginez-vous, là, si c'est vrai, on part du principe que ce qu'elle dit est vrai, et c'est possible en passant. C'est possible que ça soit vrai, là. Je dis pas que c'est faux, mais tu sais, c'est dans la vie, on sait jamais, elle peut avoir aussi besoin d'attention. Mais si on part du principe que c'est vrai, elle s'attaque au gouvernement le plus corrompu au monde, à la mafia la plus corrompue au monde, une mafia étant corrompue de base, mais à une mafia, une des mafias les plus puissantes au monde, c'est-à-dire la Russie. Parce que cette fille-là était une prostituée, dans le fond, une prostituée de luxe, d'ultra-luxe. C'est-à-dire que, genre de fille qui vient sur ton yacht uniquement, et bon, et elle a été sur un yacht, et le yacht de pas n'importe qui, elle était sur le yacht d'Oleg Deripaska. Oleg Deripaska. Lui, c'est un des plus hommes, des plus riches au monde. Une valeur dans les milliards. Un homme, un oligarque, donc quelqu'un qui a volé la Russie à l'époque quand ça a éclaté, a pris ses compagnies, puis en a fait des compagnies privées. Un ami personnel de Poutine. Et il y a des photos qui ont sorti. C'est là que ça a commencé à chauffer pour elle. Parce que qu'elle dit qu'elle a des preuves. Pour, hein, ça reste une fille de la vingtaine qui dit ça. Et là, il y a des photos d'elle qu'elle a montrées. Elle dit, regardez, je vous le dis, j'ai des contacts. Et tu la vois sur le yacht d'Oleg Deripaska. Tu la vois dans ses bras. Tu les vois en train de s'embrasser. Donc, clairement, elle a eu une relation avec Oleg Deripaska sur son yacht. Une relation de parenthèse, étant elle-même une fille, bon, qui semble être une prostituée de luxe. Mais elle a des accès. Tu vois que c'est crédible. Elle a accès à un ami proche de Poutine sur son yacht directement. Et là, sa vie a commencé à chier comme par hasard. Elle est emprisonnée là-bas. Finalement, elle arrive en Russie. Elle est emprisonnée en Russie. Et là, récemment, elle a fait une entrevue avec CNN. Elle a... Si, c'est comme je vous dis, on part du principe que ce qu'elle dit est vrai, qu'elle a vraiment de l'info, elle est courageuse, la petite fille. Vraiment. Elle s'attaque à un pays, à une catégorie de gens qui ont fait taire des journalistes connus, qui ont fait taire, écoutez, c'est des gens qui prennent le meurtre politique à la légère. Imaginez si elle a vraiment de l'info majeure. Et malgré tout, donc elle est dit, elle est en prison, elle s'est faite, donc ils sont venus la voir, ils ont dit, garde, on te laisse sortir, mais tu se fermes ta gueule, tu ne parles plus jamais de l'Oleg Deripaska, ainsi de suite. Donc elle est sortie, elle en parle sur le bout des lèvres, elle dit qu'elle ne peut plus vraiment entrer dans certains détails, mais elle parle encore. Et comme je dis, tu pars du principe, et c'est possible, parce qu'avec les infos qu'elle a, les photos qu'elle a, les informations, le style de vie, très possible qu'elle ait vu. Elle ne veut plus vraiment parler, mais en même temps, elle ne veut pas non plus, parce qu'elle dit que la vérité, c'est important. Si c'est vrai, on part du principe que cette fille-là n'a pas une recherche intense de célébrité et de 15 minutes de gloire. Si c'est vrai, c'est écoute, il faut le prix Nobel du courage de cette jeune fille-là d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle sait face à qui elle le dit. C'est, tu sais, votre humble animateur qui est une personne qui se tarde d'être courageuse, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un de grande valeur qui pour la vérité, honnêtement, pour sauver quelqu'un, pour aider quelqu'un, pour, tu sais, je suis prêt à me battre assez profondément, j'ai des convictions assez solides. Je sais pas si j'affronterai les oligarques russes, si j'affronterais la mafia russe et toute cette philosophie-là avec en les opposant avec une autre vérité que la leur. C'est quelque chose. En même temps, la deuxième possibilité étant que cette fille-là n'a pas vraiment d'infos, en a un peu, mais pas assez pour que ça soit quelque chose d'important et cherche à se faire connaître. Ça se peut aussi. Ça se peut que ça soit ça. Ça se peut qu'elle ait entrevu certaines choses de moins grande importance, mais faisant 1 plus 1, se disant que si, en étant un peu naïve, se disant que si elle en parlait, ben écoute, elle tirait l'attention. La seule raison pour laquelle cette théorie-là aurait du sens, selon moi, qu'elle cherche juste de l'attention, numéro 1, c'est qu'elle est encore en vie. Un peu louche que si c'est vraiment une information aussi grande qu'elle a depuis la Thaïlande, je vois pas pourquoi ils auraient pas fait abattre cette fille-là avant qu'elle soit connue et qu'elle est encore sortie de prison cette fois-ci de Russie. Donc, j'ai l'impression qu'on sent que les Russes n'ont pas nécessairement peur d'elle, réellement. avec l'information qu'elle a. Donc, c'est la seule petite anguille sous roche qu'elle a pour elle. Pourquoi elle n'est pas décédée, premièrement? C'est un peu triste, mais c'est ça. Et deuxièmement, pourquoi les Russes ne l'ont laissé sortir? C'est pas leur style. Si elle a une information aussi importante, je sais pas. Donc, la fille s'appelle Anastasia Vashukevich. Anastasia Vashukevich. Si vous voulez avoir de l'information sur elle, c'est Belarusian Model. Vous écrivez Belarusian Model, évidemment, des nouvelles qu'elle va sortir. C'est ça. Donc, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Ça, on va voir avec le temps, on va voir un peu si elle va décéder, malheureusement, ou si ça va juste disparaître dans les nouvelles. Mais c'est particulier. Sincèrement, c'est vraiment particulier. Everything is awesome. Everything is awesome! Je suis très upbeat aujourd'hui. On dirait que ça bouge. C'est la musique pour ceux qui savent, ceux qui ont des enfants, ou même pas besoin d'avoir d'enfants, c'est tellement bien fait. Pour ceux qui ont déjà vu le film Lego Movie, c'est la chanson principale, Everything is Awesome, du film de Lego. Je veux juste faire une petite parenthèse. T'sais, c'est pas une nouvelle qu'il y a présentement. Il y a le film Lego 2 qui va sortir, qui est tellement bon. C'est tellement bien fait. Le film Lego. Tu sais, c'est ce genre de choses, c'est le genre de film un peu comme Shrek, un film qui est techniquement destiné à des enfants. Lego, ouais, des enfants, Lego Movie, ouais, à peu près dans la jeunes adolescents. Jeunes enfants jusqu'à peut-être de 6 à 14, 15, 16. Le target clair, je parle. Mais tout le monde écoute Lego Movies. C'est moi avec mes filles, mon fils même écoute qui a 16 ans. C'est ça passe, on l'écoute, puis c'est intéressant. Ça, c'est pas le genre de film que je vais trouver long. Là. Je vais l'écouter, c'est drôle, il y a plein de blagues, très... Tu sais, c'est un humour aujourd'hui qui est très populaire, là. C'est un humour assez arrogant, un peu ridicule. Tu sais, Batman se prend pour un autre, mais il l'a pas pantoute. C'est l'humour qui fonctionne un peu à la Will Ferrell. C'est Will... Puis il est justement dans le premier Lego, Will Ferrell est dedans, dans ce premier-là. Mais ce que je veux parler d'intelligence d'une business, de renouvellement d'une entreprise. Tu sais, on parle de business comme Sears qui a planté. On parle de business comme Yahoo. On parle de business qui aurait dû, techniquement, aujourd'hui, être de grandes entreprises encore, mais qui ferment. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise ferme via une entreprise autre qui, comme Lego? Parce que Lego n'a pas de raison d'être ce qu'elle est aujourd'hui, mis à part de belles décisions bien faites. Pourquoi? Parce que Lego, ça reste un jeu dépassé, entre parenthèses. Vous allez dire, non, mais écoutez, les jeunes qui font des Lego aujourd'hui, il n'y en a plus des tonnes. Ils sont tous en train de jouer aux jeux vidéo, il faut être honnête. Dans mon temps, à moi, je passais des heures et des heures et des heures. Il n'y avait pas de jeux vidéo, je n'avais pas d'autre chose. J'avais mon énorme bac de Lego coloré. Puis dans le temps, moi, je suis le genre, il y a deux types de personnes qui font des Lego, je pense. Il y a des gens qui se califent des couleurs, c'est-à-dire qu'ils font une maison multicolore puis sont contents du résultat. Puis il y a des gens qui se soucient des couleurs, comme moi. C'est-à-dire que s'il me manquait un rouge pour faire un étage, j'étais en sacrament. Donc il y a deux types de Legoers, de faiseurs de Lego. Là. Moi, je suis deuxième type. Les couleurs, c'est important. Donc, comme une entreprise avec l'intelligence qu'elle a eue, son virement technologique n'était pas clair du tout. Là. Pourquoi Playmobil n'est pas dans ce style-là? Pourquoi ce n'est pas une autre entreprise de jeu? Pourquoi G.I. Joe n'est pas dans ce point-là? Pourquoi Lego? Ça reste uniquement une décision, des décisions à la tête, des décisions qu'ils ont prises. Premièrement, les jeux Lego. Si vous avez une console, si vous n'avez pas de console, si vous avez quelqu'un autour de vous, des jeunes qui ont une console, si vous n'avez jamais essayé de jouer à un jeu Lego, ils en ont fait des tonnes. Il y a Lego avec plusieurs sujets. Encore là, l'intelligence du branding Lego. C'est Lego Star Wars, le premier qu'ils avaient fait. Après ça, ils ont fait Lego Indiana Jones, Lego Batman, Lego. Il y a des tonnes. Tous les films intéressants pour cette catégorie-là, ils font un Lego. Mais ils font pas, tu sais, souvent, il y a des jeux qui sont reliés à des films qui sont poches. C'est pas le fun. Tu vois que c'est vraiment juste pour le temps que ça sort, puis c'est pour mousser le film, et c'est tout. Lego, leurs jeux sont exceptionnels. Ça vieillit bien, ça joue bien. C'est intelligent, c'est bien fait. C'est tout l'univers Lego. Les intrigues, le jeu est bien fait. Ça joue tout le temps à deux aussi, en même temps, coopératif. Ils ont commencé là avec une intelligence et une qualité. Ils ont, à l'époque, ils font encore affaire avec TT Games, qui, qui les a, dans le fond, qui a fait un produit de qualité. Mais encore là, ça reste une décision exécutive. Lego aurait pu faire affaire avec une entreprise moins chère, avec une idée de second ordre, juste pour dire qu'ils tâtaient le terrain. Non, ils ont carrément été à fond là-dedans avec TT Games, puis ils ont fait un produit de malade. Ça a dû coûter cher, il doit y avoir un risque d'impliquer. Et déjà là, il y avait un pied dans le 21e siècle, Lego, avec ça, parce que leur jeu fonctionne de façon astronomique, c'est intéressant, je vous le dis. Moi, mes filles jouaient à ça, à ce type de jeu-là, Lego. Tu sais, des fois, tu t'embarquais dans le jeu avec une manette, même si tu ne sais pas jouer, c'est intéressant. J'ai passé ma phase jeu vidéo, mais c'est intéressant. C'est intéressant, ça se fait bien, puis ainsi de suite. Donc, si ça avait été ça, déjà là, la compagnie Lego serait entrée avec des droits dans le 21e siècle avec les jeux vidéo et aurait assuré, sans assurer son avenir vraiment, aurait quand même fait un geste intéressant. Et là, non, c'est pas suffisant pour Lego. Il lance des films et des... Tu sais, tu dis, voyons donc, un film avec le sujet qu'est Lego. C'est pas évident, là. C'est pas évident. Un peu comme Angry Bird a fait. Angry Bird l'a très bien fait aussi. Angry Bird, qui est un jeu vidéo, pas un jeu vidéo, mais une application, carrément, qui a rendu la compagnie milliardaire. C'est une compagnie, je pense, qui est brésilienne, celle qui fait Angry Bird, je sais pas. Mais donc, ils ont fait un film, et le film Angry Bird est très bon. Le scénario est bon aussi, ils ont bien investi. C'est très, très bon film, le film d'Angry Bird. Mais Lego, donc, décide de faire un film, et le film est écœurant. Hein? Encore une fois, bien fait, intelligent. Lego comprend très bien. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est une agence en dessous d'eux qui les conseille, sûrement. Mais ils prennent de bonnes décisions. Les films ont un width. Les films ont une espèce de baveux juste assez pour ne pas être exagéré pour un adolescent, mais être suffisant pour un parent. Une espèce de petit twist à la Shrek. C'est bien fait, c'est intelligent, c'est drôle, très drôle. Même pour un adulte, les films Lego sont comiques. Donc, c'est félicitations carrément. C'est un exemple. Je pense que les entreprises autour d'eux doivent s'en inspirer, doivent regarder Lego et comment Lego a pris des décisions de qualité, travailler avec les bonnes personnes, a mis le cash au bon endroit pour réussir à carrément survivre et devenir même un fleuron. Parce que avec tout ça, ben, les Lego de base se revendent parce que les gens voient des films et ça donne un certain intérêt. Mais nonobstant ça, juste les résultats, juste les profits fait par les films et les jeux, sont pour Lego maintenant une branche pratiquement essentielle. Donc, c'est je veux féliciter Lego, je veux que ça soit... C'est un exemple que bien des business devraient utiliser sur comment traverser, comment passer d'un modèle d'affaires du 20e siècle et se rendre dans un modèle d'affaires du 21e siècle. C'est carrément impressionnant. Yeah, United States, nos voisins du Sud. Et deux nouvelles qui se passent au State majeures. Deux nouvelles majeures. T'as une nouvelle majeure au State. De toute façon, avec le président qu'ils ont là, le désavantage, c'est que c'est un pays de Mongols maintenant. L'avantage, c'est que c'est divertissant, sacrément. Deux nouvelles, deux choses majeures que vous devez savoir, c'est State. Premièrement, aujourd'hui, Trump. Écoute, le gars, il nomme Dan Coats comme son directeur de la CIA. Tu le nommes. Tu dis, toi, Dan Coats, c'est parce que c'est le président qui le nomme. Là. C'est-à-dire que c'est le parti au pouvoir qui a le pouvoir, le droit de nommer le directeur de la CIA. Ça fonctionne comme ça aux États-Unis. Il nomme Dan Coats. Et depuis le début qu'il est là, il y a toute une philosophie, il y a toute une crainte des Américains avec raison parce que Trump est un peu dans les underground news, Breitbart. Il y a une espèce de. Il y a un univers de gens conspirationnistes. Qui est aux États-Unis, qui fonctionne très bien. Des animateurs radio principalement et de podcasts très puissants qui mènent une certaine catégorie d'Américains dans une espèce de délire sur la réalité, sur les possibilités de... Ce serait pas nécessairement problématique jusqu'à ce que leur président, sacrément, embarque, mais à plein là-dedans. Ces nouvelles, il les prend là. Et non seulement, écoutez la gravité de la chose, non seulement il se prend ces nouvelles-là, c'est le président des États-Unis. Écoute, c'est l'homme sur lequel il a droit de peser sur le bouton pour lancer une arme nucléaire. Là. Et cet homme-là préfère les nouvelles underground de Breitbart, de toute cette radio underground-là conspirationniste, aux informations de la CIA, de la NSA, et ainsi de suite. Et c'est pas une farce. Il l'a dit, c'est la nouvelle du jour. Donc, eux ont fait une conférence hier. Il y avait ils faisaient un rapport devant le Congrès américain. Dan Coats disait, écoutez, voici ce qu'il y en a au niveau du monde. C'est un rapport annuel qu'il fait, disant l'Iran n'a pas d'armes nucléaires, il ne faut pas exagérer, ils ont arrêté effectivement. Donc, il donne son avis sur à peu près tout ce qui se passe sur la Terre. La problématique étant que ce n'est pas en lien avec les pensées de Donald Trump et de sa gang de conspirationnistes. Donc, qu'est-ce que fait le président à ce moment-là? Ben, il dit carrément, il fait un tweet. Donc, rien de mieux que faire un tweet pour parler à son staff. Il leur dit de retourner à l'école. Carrément. C'est pas une blague, là. Oui, bravo, Donnie Trumpy. Oui, bravo. Mais pourquoi, Trump, pourquoi?
I was a really good student at the best school. I'm not like a smart guy.
Ah, OK, parce que t'es un smart guy. Le gars, ils envoient chier, littéralement. Il leur dit de retourner à l'école, qu'ils savent pas de quoi ils parlent. C'est malade, c'est débile. Le président américain dit au chef de la CIA, écoute, la CIA étant l'agence de surveillance d'intelligence mondiale la plus puissante au monde, avec le plus de budget, avec tous les employés qu'il y a là, tout l'historique, leur dit de retourner à l'école parce qu'ils n'ont pas les mêmes visions que lui. J'ai jamais vu un égocentrisme aussi enflé de l'histoire de l'humanité. C'est malade, là. En plus, dans un tweet, imaginez l'effet que ça fait quand t'es Dan Coats. T'as des employés en dessous de toi, peut-être 40-50 000 employés sous lui en la CIA. Et le président, qui est ton patron, il crée un tweet et dit de retourner à l'école. Que t'as aucune idée de quoi tu parles. Et mais lui, il le sait, avec sa gang de Breitbart News, avec sa gang, avec Rush Limbaugh, avec toute sa gang de conspirationnistes. C'est malade et c'est dangereux. C'est pas une farce, c'est dangereux. C'est dangereux parce que cet homme-là a une grande puissance, un grand pouvoir dans le monde. Clairement, là, il s'en va. Il veut une confrontation avec l'Iran. Pourquoi il veut une confrontation avec l'Iran? Selon moi, à mon avis, c'est parce que ça va l'aider à être réélu en 2020. S'il starte une guerre contre l'Iran début 2020, lorsque les élections auront lieu, donc en novembre 2020, les gens, lorsqu'il y a une guerre, ne changent pas de président. Et c'est mon avis terrible, c'est ce qu'il essaie de faire. Et c'est vers là qu'il s'en va. Et son directeur de la CIA, Dan Coats, l'a contredit aujourd'hui là-dessus. Donc, ça l'a mis en sacrement. Donc, tu sais, c'était la première grosse nouvelle américaine, puis qui en est une débile. Okay? C'est absolument débile. Deuxième news. Tout le monde aujourd'hui, parce que bon, il y a la présidence de 2020, puis les États-Unis, là, écoutez, ça commence tôt. Là. C'est déjà commencé la course à la présidence. C'est malade, mais c'est comme ça. Ils commencent déjà à... Les candidats se présentent, surtout du parti opposé, parce qu'au niveau républicain, donc là, ils sont au pouvoir, c'est le président et républicain. Eux ne parlent pas tout de suite, parce que ça serait assez baveux de commencer tout de suite à dire que tu vas être contre le président. Ils le font pas. Ils se cachent un peu derrière. Mais les démocrates, eux, c'est la course à la chefferie. Qui va être l'officiel qui va se présenter? Il y en a plusieurs de qualité. Mais il y en a un qui met de la marde présentement, pour diverses raisons. C'est Schultz. Son nom est Howard Schultz. Howard Schultz, c'est un milliardaire américain. Un autre, vous allez me dire, effectivement. Par contre, de gauche. Okay, c'est-à-dire de gauche, étant plus social, étant plus... Bon. Lui a été connu principalement pour être président de Starbucks, les cafés Starbucks. Il a été président là, il a été très, très bon chez Starbucks. Il les a fait fructifier, il a fait un livre. C'était comme un héros de la gauche américaine au niveau du façon de dealer une entreprise à la Seattle Way, puis quelque chose comme ça. Donc Schultz, lui, n'a pas encore lancé sa candidature, mais si, il est presque ça. Mais le problème n'est pas là. Le problème est le suivant, c'est que Schultz dit que les démocrates sont rendus trop à gauche, sont rendus trop Bernie Sanders, sont rendus trop exagérés. Et lui est en train de tenter l'idée de s'en aller comme indépendant aux élections. Là où c'est grave et ça l'est, c'est que ce que ça va faire, dans le fond, et tout le monde le voit clairement, c'est que lui, c'est un homme de gauche, donc il va chercher des votes démocrates. S'il s'en va indépendant, il va juste diluer le vote démocrate. Et il va faire perdre les démocrates contre Trump en 2020, c'est clair. Trump lui-même espère que Schultz se présente comme indépendant. Il l'a tweeté. Écoute, c'est la victoire. Sincèrement, si Schultz, parce qu'il y a tellement d'une présence forte, Schultz, il va aller chercher un pourcentage de l'électorat. C'est quasiment assuré qu'il va aller voler. Il va aller voler la présidence. Il va donner sur un plateau d'argent la présidence à Donald Trump en 2020 s'il se présente comme indépendant. C'est tôt encore, mais l'analyse est bonne. L'analyse est claire. Schultz... il a des problèmes avec le Parti démocrate. Je pense qu'il devrait régler ses problèmes avec le Parti démocrate. Parce que là, s'il le fait de cette façon-là, c'est grave parce qu'il va, c'est clair, c'est simplement ça qui va peut-être, encore une fois, très difficile à prévoir aujourd'hui, en 2019 et en 2020, surtout qu'est-ce qui va arriver parce que les choses sont rendues fuckées. Mais ça ressemble à ça. Ça ressemble vraiment à ça, puis c'est, ça reste un problème. Ça reste un problème majeur parce que, écoutez, voyons donc. T'sais, pensez-y, là, c'est pas intelligent de le faire de cette façon-là. En même temps, lui, pourquoi veut pas être démocrate? Ben, il aime pas une fille comme Emilio Cortez, la fille qui danse, là, qui veut taxer les riches et les ultra-riches. Donc, il y a une espèce de vague socialiste en réponse à Donald Trump qui arrive chez les démocrates très forte, mais très, très forte, qui ressemble pas du tout aux Américains, jusqu'à maintenant, du moins. Elle ressemble beaucoup plus aux Canadiens. C'est-à-dire que les socialistes ressemblent plus au NPD canadien. Le NPD canadien qui ne ressemble pas du tout aux Américains, là, sincèrement. Mais ça s'en va vers ça. La nouvelle génération de dirigeants démocrates ressemble beaucoup plus au NPD canadien qu'aux démocrates américains qui ont lieu à l'époque. Donc, il y a une espèce de clash. Un clash qui est avec les jeunes démocrates, mais les plus vieux. Donc, cet homme-là, lui, qui est un démocrate, mais des premières heures, c'est un homme peut-être proche de 70 ans, dans la soixantaine, dans le fond. Lui a la vieille philosophie démocrate qui ressemble beaucoup plus au DO, qui est plus centriste, qui ressemble au Parti libéral au Canada. Donc, un parti qui est beaucoup moins de gauche, comme peut l'être le NPD. Donc, je ne sais pas, les gens essayent de lui dire de ne pas faire ça, de ne pas se présenter comme indépendant. Par contre, semble adorer l'attention que ça lui donne. Lui, le gars, il a l'air heureux comme un freaking poisson dans l'eau. Il aime. C'est un gars qui, manifestement, aime ça. C'est comme bien du monde. Là. Il aime ça qu'on parle de lui. Il aime ça qu'on... Fait que, je sais pas, est-ce qu'il fait ça à date? Est-ce qu'il retient? Est-ce qu'il le fera pas, mais il aime la publicité? Il aime ce que ça lui apporte? Parce que beaucoup de gens le critiquent en disant que c'est le cas, qu'il veut simplement aller chercher du capital pour faire un autre livre puis faire encore plus riche, ce qui est très possible dans son cas. Donc, ça serait triste de faire perdre la possibilité de présidence aux démocrates pour aller chercher plus de cash. Ça serait le comble du comble de l'égocentrisme. Mais on est là dans l'humanité, on est rendu là. Les gens veulent s'aider eux-mêmes. Et justement, ma prochaine nouvelle en parlant du comble d'égocentrisme, là, ça s'en va vers ça. Du pop, c'est pas du K-pop, ça. C'est pas du pop coréen qui ressemble beaucoup au K-pop dans le fond, ça, mais non, c'est du pop japonais. C'est comme ça les Japonais peuvent le faire. C'est très très petite fille, très schoolgirl qui chante avec des petites jupes. Je sais pas, ils trippent là-dessus, là. Un peu louche, mais ils aiment bien ça, les Japonais. Cette espèce de pop-là. Il y a une nouvelle qu'on avait déjà entendu parler, mais moi, j'en parle aujourd'hui parce qu'elle est ressortie un peu. Il y a comme une analyse qui a été faite sur BBC. C'est le principe du Hikikomori. Ça s'appelle, ils ont donné le nom de Hikikomori. Pourquoi je veux en parler? Parce que j'ai l'impression, et je le pense sincèrement, je ne suis pas le seul, il y a une analyse, plusieurs analystes qui pensent de la même façon, que ce qui se passe au Japon souvent va se passer à travers le monde plus tard. C'est des gens très avancés au niveau technologique, donc ils sont peut-être 10, 15, 20 ans dans le futur sur les effets de la technologie. Donc je pense que la façon que leur jeune génération réagissent, la façon que leurs jeunes gens réagissent, seront la façon que nos jeunes gens devront plus ou moins réagir dans 20 ans. Donc il y a une espèce d'analyse sociologique, il y a une espèce d'anthropologie qu'on peut faire sur notre société de futur en regardant les Japonais. Et le phénomène du Hikikomori, peut-être que vous l'avez déjà entendu parler, c'est des jeunes adolescents, surtout des garçons, des jeunes adolescents qui montent dans la vie adulte et qui s'enferment dans leur monde. C'est-à-dire qu'ils ne sortent plus de chez eux, puis des fois pendant des années. Ils restent dans leur chambre, particulièrement chez leurs parents, un peu comme un tanguy, mais ce n'est pas un tanguy financier, ce n'est pas le principe de sauver de l'argent pour ne pas payer. C'est qu'ils restent dans leur univers, ils restent dans leur chambre, ils ne sont pas du tout socialisés. On parle d'une quantité, au Japon, il y aurait 400 000 Hikikomori, 400 000 jeunes qui ne sortent pas des fois à l'année longue. Il y en a qui ne sont pas sortis pendant 2-3 ans de leur chambre. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont addicts à la technologie, donc ils n'ont pas besoin. Ils ont une espèce d'accès au monde sans en avoir un. Ils vivent dans leur chambre, donc ils ont Internet, ils ont toute leur vie. Donc ils ont une espèce, l'espèce, plutôt le monde le réalise aujourd'hui, une espèce de c'est bizarre parce qu'au même titre qu'on s'ouvre sur la planète et on a accès à tellement de gens, ça isole de plus en plus l'être humain. On n'avait pas vu ça venir, mais c'est maintenant très clair qu'on s'isole avec les réseaux sociaux au lieu de s'unir. Parce que on vit notre vie à distance, on ne crée plus vraiment d'occasion de se rencontrer parce qu'on a l'impression qu'on connaît la vie des autres parce qu'on la voit de façon journalière. Donc, cette génération-là, surtout de jeunes hommes japonais, ne sort carrément plus. Ils sont plus capables de vivre en société, ils sont plus capables d'interagir autrement que par des réseaux sociaux. Et de là, le fait d'en parler, parce que, c'est un phénomène, et je le vois, ça s'en vient de plus en plus chez nos jeunes, une difficulté de socialiser, une difficulté autre que leur vie de sociaux. Ça va plus loin aussi, même au niveau de la vie sexuelle. Il y a des films qui ont été faits, je pense que c'est Don John. Le gars n'est plus capable d'avoir de relations sexuelles avec des vraies personnes parce que trop habitué de le faire lui-même avec l'Internet. Ce qui est rendu triste, une espèce d'égo-érotisme, c'est-à-dire que son plaisir est tellement intense personnellement, il sait tellement exactement comment se faire plaisir avec ce qu'il aime comme image, qu'une réelle personne n'a pas la possibilité de le faire. Donc c'est tout un univers, qui est dégueulasse, un univers qui est sombre, triste, et on voit ça arriver au Japon. On le voit arriver avec le phénomène Hikikomori, et ces jeunes-là, est pour moi exactement ce que va être une bonne partie de la jeunesse dans 20-30 ans. Je pense sincèrement que c'est vers là que s'en va cette jeunesse, la prochaine même jeunesse, parce qu'elle n'est pas encore née, dans une espèce d'isolement social-là, dans lequel ils ont l'impression de faire partie du monde, mais duquel physiquement ils n'en font pas du tout partie. Ça me semble évident que cette façon de faire-là a un sens, et cette façon de faire-là semble vraiment être ce qui s'en vient de plus en plus. Reste encore une fois, je ne sais pas, est-ce que les gens vont avoir un rôle pompon? C'est rôle pompon. Est-ce que les gens vont s'écœurer? J'espère qu'il va arriver quelque chose, parce qu'on est impuissant face à tout ça. Au contraire, on en a tellement besoin. J'ai parlé de la panne de courant récemment. T'sais, on n'a pas grand monde qui a réussi à faire quoi que ce soit de sa vie. Quand il y a une panne de courant, on réalise à quel point on est pris. Mais ma génération est encore habituée d'avoir besoin d'avoir un contact humain avec les gens. Mais cette nouvelle génération-là n'a pas ce contact humain-là. N'a pas cet besoin que l'ancienne génération a. Donc, je ne sais pas. Donc, si vous voulez avoir de l'information sur ce phénomène-là, ça s'appelle H-I-K-I-K-O-M-O-R-I, Hikikomori. C'est assez frappant à quel point je pense que la nouvelle génération s'en va là-dessus. C'est les nouvelles d'aujourd'hui. Je pense qu'il y avait du stock. On suit aussi, puis je vais en revenir cette semaine, mais je vous avais parlé du Venezuela. Là, c'est vraiment pas fini. Là. Maduro, qui l'espèce de trou de cul qui s'attache au pouvoir contre les Américains. Là, tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti de l'ombre. C'est la CIA, depuis des années, veut faire tomber le Venezuela. Le parti au Venezuela, plutôt. Le socialisme qui est là-bas. Mais là, tout le monde est sorti de l'ombre. Les Américains le disent clairement qu'ils sont derrière l'opposant. Les Russes sont du côté de Maduro, donc là, encore une guerre par proxy, mais là, tout le monde est sorti du placard, tout le monde explique vraiment ses positions. Donc, on va revenir là-dessus, c'est très important par rapport à ce qui va arriver pour le peuple qui crève de faim, mais littéralement. Je le rappelle, un frit pour un Vénézuélien chez McDo, et 133$ si on convertit avec leur monnaie. 133$ pour aller au McDo. Quand tu peux pas aller au McDo, c'est triste. On se parle demain.